Seul l'instant est vérité. Voyager, c'est bouger, regarder, entendre. C'est aussi être immobile, observer, écouter. Pour Daniel Reblin, photographe voyageur, s'il y a un sens à être avec l'autre à l'autre bout du monde, c'est un sens qui se construit, se révèle et se découvre au travers d'images qu'il rapporte, toujours en accord avec les univers qu'il rencontre. L'intime s'y livre en un clin d'œil. En instantané.
J'ai eu envie d'aller découvrir d'autres horizons que ma banlieue parisienne. Mon premier emploi a été comme technicien avion Air France. La possibilité de partir, puisque quand on est salarié d'Air France, on a le droit au billet à 10% maximum. Donc j'ai pu aller beaucoup plus loin que les premiers chemins que j'avais empruntés en Europe. Et j'ai pu découvrir l'Amérique du Sud notamment, qui a été pour moi un vrai bouleversement. J'ai découvert le Pérou, j'avais 21 ans, oui. Et j'ai été profondément bouleversé. Je me suis dit que quelque part ma vie était là. Et d'ailleurs, j'ai voulu démissionner d'Air France. Et j'étais au siège à Lima d'Air France. Et on m'a dit vous avez le droit de démissionner. C'est tout à fait votre droit. Mais c'est à Paris que vous démissionnerez. Sinon, on viendra vous faire chercher. Dans ce chaos qu'était ce pays, parce que c'était vraiment un chaos assez important, je trouvais les racines de chemin à approfondir, quoi, à découvrir. J'étais dans un monde, dans une société qui était moins structurée et moins structurante qu'elle l'est maintenant, puisqu'on sortait de 68, il y avait quand même une dynamique qui n'était pas celle dans laquelle nous entrons en ce moment, mais je trouvais qu'il y avait à mes yeux de jeune homme, quoi, il y avait une découverte de quelque chose d'impossible dans ce chaos, de rencontres plus humaines. Donc je suis rentré à Paris après plusieurs semaines de vagabondage dans un pays qui était, on peut difficilement décrire ce qu'était ce pays il y a donc 40 ans. Mais ça a été pour moi la découverte de chemins que j'aurais envie de poursuivre tout au long de ma vie, quoi. La rencontre d'une culture différente, de populations différentes, aussi prendre conscience de ce qu'était la colonisation d'un pays, parce que le Pérou, comme toute l'Amérique du Sud, s'est construit, en tout cas sa période la plus récente, dans une violence extrême. Les colons espagnols ont détruit en grande partie l'histoire de ce continent et se sont appropriés les populations et ils ont asservi plus ou moins et cette violence est encore très très présente en Amérique du Sud et moi elle m'a heurté, quoi. C'était quand même une dictature, donc il y avait une présence militaire extrêmement forte et en même temps une population indienne qui était opprimée, qui vivait dans une misère effroyable et une population d'origine espagnole et qui elle vivait dans une certaine opulence ou pour certains dans une grande opulence. J'ai démissionné au bout d'un an et demi Pourtant, matériellement, c'était, je devais être à 3 fois ou 4 fois le SMIG. J'avais l'avion gratuit. À l'époque, on avait 5 semaines de congés payés. On avait 14 mois de salaire. Enfin bon, 14 mois et demi même. Donc, c'était matériellement rêvé, quoi. Mais je sentais que c'était pas mon chemin et bon, à la désolation de certains, et j'ai pris cette décision et je la regrette pas du tout, même s'il y a eu des moments difficiles après, mais c'est aussi un chemin, ça a été mon chemin. Il y a encore quelque chose de très très fort qui me semble on a perdu, quoi. Je crois que cette rencontre avec le Pérou, ça a été cette première bribes de sensations qui m'amenaient vers ça, quoi, cette rencontre avec des peuples différents et en même temps avec justement pas pris dans une matérialité outrancière, faisait que d'autres possibles étaient envisageables. En tout cas, la photo était le dernier de mes soucis pendant très longtemps, puisque pendant plus de 20 ans, j'ai voyagé sans photographier. Et même une année, je suis retourné au Pérou. Je suis resté plus de 6 mois en Amérique du Sud. Et des amis m'avaient offert un appareil photo avant de partir. Ils m'ont dit « tu vas nous ramener ». Et je me le suis fait voler quelques semaines avant de rentrer. Donc, je n'avais strictement aucun souvenir, en tout cas photographique, des quelques photos que j'avais essayé de faire. Mais j'en avais fait très peu parce que je trouvais que c'était impudique. J'étais peut-être trop jeune et qu'il fallait que je comprenne, essayer de comprendre ce que je regardais, ce que je côtoyais. Et c'est ça qui m'a accaparé pendant longtemps. Et peut-être qu'à un moment, je me suis dit... T'as peut-être avancé sur ce chemin et j'ai eu envie, effectivement, d'aborder l'image, quoi. Ça fait pas plus de 15 ans. Ouais, 15-18 ans que j'ai commencé à regarder, à prendre des photos, quoi. Mais sans savoir trop ce que je faisais, sans savoir... Mais envie quand même de regarder autrement. D'essayer de voir si je pouvais fixer ce que je ressentais au plus profond de moi, si j'arrivais à le transposer dans un autre élément. Et ça a pris quand même du temps, et c'est toujours, me semble-t-il, en évolution. En tout cas, je l'espère, que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Tout ce que je fais, je l'envisage dans l'idée du partage. Et ça, je crois que ça fait partie de ma vie. Et donc, les premières photos que j'ai prises, je les ai partagées tout de suite avec d'autres gens. Oui. Pour moi, c'était très important. Je pense que c'est... moi, j'associe aussi la découverte d'une pratique qui est le tai chi et le qigong. Et je pense vraiment que c'est des choses qui m'ont aidé à construire et à saisir ces instants de vie ou ces instants où l'autre accepte de t'abandonner ce qu'il est au fond de lui, quoi. Et moi, j'associe vraiment cette avancée à partir du moment où j'ai commencé la pratique du tai chi, du qigong, et qui m'ont ouvert à d'autres dimensions. Et maintenant, je pratique ça depuis quand même pas mal d'années. Et j'ai la chance de pratiquer avec des gens extrêmement passionnants. Et ça m'aide beaucoup. Et j'associe vraiment ça à cette pratique-là, quoi. Et plus j'avance dans le tai chi et le qigong, et plus il me semble que mon travail photographique avance, quoi. c'est plus une image qu'on propose, c'est une autre dimension. Il y a quelque chose de spirituel, ou une tentative en tout cas d'approche spirituelle par la rencontre de ces deux éléments qui se conjuguent et qui donnent certaines images qui, pour moi, me portent des émotions. Et je vois bien que c'est les regards qu'on m'offre, parce que je considère vraiment qu'on me les offre, parce que il me semble que ce que j'offre aussi à celui qui me regarde fait que il y a une confiance qui s'établit. C'est dans l'instant, c'est des choses très éphémères, très courtes, mais c'est un langage. Je dis souvent que on a perdu certains codes du non-langage, justement de l'absence des mots, mais que il y a un langage très primaire ou en tout cas très très ancien qu'on retrouve dans beaucoup de pays, que justement ces pays où la matérialité n'a pas encore envahi tout l'espace, et les gens ont encore cette relation avec l'autre sans le mot, sans le verbe, sans la parole, mais on sait qui est l'autre, quoi. Parce que justement c'est le principal outil de vie sociale. Enfin, les expressions, les regards sont riches de ce qu'est la personne. Ah, moi, je crois sincèrement que l'idée de proto-langage, enfin d'un langage universel qu'on a tous au fond, mais le problème, c'est qu'on a appris à le cacher, à le camoufler, à le mettre sous des couches et des couches et des couches de protection. Mais il y a des peuples qui n'ont pas appris ça, il y a des gens qui n'ont pas appris ça et qui ne veulent pas apprendre ça. Et c'est ces rencontres-là que moi je cherche. J'ai un exemple qui me vient à la tête, c'est en Éthiopie, j'étais dans la vallée de l'Omo, et à un moment je me trouve chez les Mursi, ces femmes qui ont des plateaux sur les lèvres inférieures. Et d'un seul coup, deux touristes débarquent à côté de moi, alors que j'étais en train de prendre des photos avec ces gens et avec qui il y a une communication. Ces femmes ont pris des cailloux, alors que moi j'ai un appareil photo monumental, et que les gens qui arrivaient à côté de moi avaient des tout petits appareils photo. Elles ont pris des cailloux pour leur jeter à eux. Et moi, elles me livraient des regards, des visages. Et c'est très souvent, quoi. Et là, c'était un cas incroyable, quoi. Mais parce que je crois qu'ils avaient compris que... Je crois que mon regard n'était pas le même. Cette espèce de prédation de l'autre pour faire de l'image, pour raconter ses histoires, mais sans essayer de comprendre qui est l'autre, quoi. Et ça, il y a des gens qui sentent ça. Et à qui ça... Et heureusement que ça insupporte, quoi. Et je pense que c'est ça que j'essaye de saisir, c'est ça que j'essaye de transmettre et de partager, quoi. Passé, on était au Cambodge et j'ai passé plusieurs semaines au Cambodge sans pouvoir sortir mon appareil photo. J'étais tétanisé parce que je ressentais l'histoire de ce génocide, et pour moi, je le sentais partout, quoi. Il m'oppressait et j'arrivais pas, je comprenais pas ce que j'étais en train de faire, ce que je ressentais. Et puis à un moment, j'ai croisé le regard d'un homme qui à mon avis, avait vécu des choses très très fortes, et je lui ai demandé de le photographier. Il m'a livré son histoire, et après j'ai compris que j'étais là pour photographier ça. Et dans les rencontres de gens que je croisais, il y a des gens qui me racontaient des histoires, et j'allais vers eux et je leur demandais de partager ça, quoi. Il y a même une photo d'un homme dans cette série de portraits qui a été plutôt bien reçu, enfin qui a une belle histoire aussi. Il y a un homme à Phnom Penh avec qui j'ai fait plusieurs essais de portraits, et à chaque fois, au moment où j'appuyais pour déclencher, sa tête se baissait. Il n'arrivait pas à me regarder. On voyait bien que il avait envie qu'on échange, mais il ne pouvait pas afficher, parce que peut-être qu'il sentait que j'allais au-delà de son image, quoi. Et c'est étonnant. On n'a jamais réussi. Et j'ai mis ce portrait de ce regard qui fuit, parce que je trouvais que c'était aussi une des propositions qui m'était faite et qui était intéressante de cet impossible que nos vies, des fois, nous obligent à porter. Chacun de ces portraits, ça a été un moment très fort pour moi, mais celui-là a été étonnant parce qu'on a essayé de répéter la chose et on a jamais réussi, quoi. Et à un moment, j'ai dit, mais je lui ai fait voir, parce que je faisais voir aux gens les photos, ce qui est un des charmes du numérique. Et je lui ai dit, mais moi, ça me va, quoi. C'est ça aussi. Puis c'est aussi un outil de dialogue merveilleux. Dans les villages, les enfants, au départ, on peut faire des photos anecdotiques et quitte à les effacer après, c'est pas un problème. Mais pour leur montrer, c'est un outil d'échange, de dialogue. Et puis après, ben, on les laisse vivre et on saisit des moments où de la vie. Moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est intéressant de prendre des portraits figés, posés, mais ce qui m'intéresse, c'est ces moments de vie, ces instantanés de vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, faire que tu es là, mais en même temps, tu n'es pas là. Et en même temps, l'autre sait que tu es là et il sait qu'il a envie de te donner ou il a décidé de te donner quelque chose. Et donc, être dans ce moment où tu appuies et tous les deux en adéquation, ben voilà, il se passe quelque chose. Il y a eu continuellement des moments complètement fous. Je me rappelle très bien de ce moment. On revenait de l'allée des baobabs, l'allée mythique de Madagascar. Et d'un seul coup, ce ciel, qui d'ailleurs a explosé peu de temps après, c'est contracté, devenu noir. Et en même temps, est sorti des rayons du soleil de la couche nuageuse et est venu... tout le paysage était couvert d'or et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir mon appareil sur les genoux, de m'arrêter, mais ça a duré 3 minutes, 4 minutes, quoi. Mais on était 5-6 personnes et des malgaches étaient avec nous et ils avaient jamais vu ça, quoi. On était tous subjugués. Et il y a eu vraiment de très nombreux moments. J'ai une image aussi d'un homme sur une barque avec un ciel violet au fond. C'était un cyclone qui arrivait, et c'est pareil, ça a duré 3 minutes, quoi. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on arrivait, on a vu cet homme-là, et puis le ciel était un peu tourmenté, puis d'un seul coup, il est devenu, mais violet, complètement violet. Et chose que j'avais jamais vue. Je n'imaginais pas qu'un ciel pouvait de. Et ça a duré 3-4 minutes. Et après, l'onde est passée et c'est redevenu dans des couleurs plus habituelles, quoi. Et il y a eu énormément de ces moments-là dans tout ce voyage. Et c'est vrai que c'était qu'un. Pour un photographe, c'était le rêve, quoi. Moi, je sautais partout. J'étais. D'abord, ça a été la découverte avec un pays que j'ai trouvé absolument magnifique, vraiment. Il s'est trouvé que c'était la saison des pluies, la saison des cyclones, et que c'est des saisons, moi ça fait plus de 40 ans que je voyage, j'avais jamais vu des lumières pareilles. Le fait qu'il pleuve quasiment chaque jour, souvent c'est le soir, mais ça, le matin le ciel est d'un bleu, d'une luminosité incroyable, et au fur et à mesure que la journée avance, le ciel se torture, et pour arriver à créer des lumières qui sont, enfin, souvent d'ailleurs on prend même pas l'appareil photo parce que c'est trop beau, quoi, et que le mieux c'est d'en profiter, de le vivre, quoi, et l'idée de prendre l'appareil photo, déjà on perd, et donc il faut aussi savoir laisser l'appareil photo dans le sac à dos et puis vivre ces lumières. Donc ça a été pour moi j'ai découvert des lumières comme jamais j'avais vu au cours de tous mes voyages, et puis des populations absolument bouleversantes par la difficulté de la situation politique, économique de ce pays, et ce grand désespoir. Moi, j'ai jamais rencontré autant. On n'a pas rencontré en 2 mois une personne qui nous ait dit un mot positif sur son pays. C'est énorme. Enfin, c'était absolument bouleversant, quoi. Il n'y avait pas un individu qui s'adressait à nous en ayant une bribe d'espoir. Tous étaient dans le désespoir. Et une situation de corruption, de difficulté générale absolument incroyable, quoi. Et ça, c'était, je pense que ça a aussi porté mon regard. Et en même temps, il y a une diversité de populations, de cultures qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on se déplace dans ce pays. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touché, et j'ai aimé ce peuple, j'ai aimé ces gens, peut-être un peu plus que d'autres fois, même si je reviens à chaque fois nourri de ces rencontres. Mais là, effectivement, il y a eu des rencontres qui m'ont profondément bouleversé. Ouais. Dans les villages à 6 heures du soir, plus personne n'est dans les rues. Mais même dans des villages perdus, c'est l'angoisse, c'est l'insécurité, c'est la peur, c'est désespérant, quoi, de voir que ces gens sont cantonnés par cette peur présente sur toute l'île. Dans la capitale, par exemple, à partir de 6 heures du soir, il n'y a plus personne dans les rues, quoi. 6h, 6h30, il n'y a plus personne dans les rues. Les policiers qui raquettent tout le monde tout au long de la journée, dès que la nuit tombe, il n'y a plus un seul policier. Hein. Et on vous dit, mais même pour faire 300 ou 400 mètres pour aller manger, vous prenez un taxi, quoi. C'est un pays où il y avait certaines formes de violence, comme partout, mais à l'été, on se mettait des coups de bâton. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de fusils, il y a beaucoup de kalachnikovs qui circulent. Que ce soit les policiers ou que ce soit les délinquants, on tire très facilement, quoi. On s'est trouvé dans un village où, dans l'hôtel où on était, 3 semaines avant, la propriétaire surprenant un voleur en train de voler dans une chambre, elle appelle la police qui se trouvait juste à côté. Ils mettent en sommation ce jeune homme. Le jeune s'en va en courant et les policiers tirent et le tuent. Une semaine avant, des gens dans le village nous disent « Il y a une jeune femme qui rentrait d'avoir mis au monde son bébé. Elle découvre un homme dans sa maison qui était en train de voler et le type la tue. » Et dans ce même village, on s'est trouvé un soir, je voulais absolument faire voir une sculpture dans une église à Kedi, et on se promène comme ça dans ce petit village, et puis d'un seul coup, on entend un bruit, un bourdonnement énorme. On s'avance vers ça, et on voit un homme quasiment nu, enfin en slip, couvert d'une peau de mouton qui était encore sanguinolente, qu'il avait sur la tête, et 200 personnes, presque tout le village qui était derrière et qui voulait le tuer. Et moi, j'ai discuté avec les gens. Et s'il n'y avait pas eu 2 militaires pour le garder, ils voulaient le tuer, quoi. Parce qu'il avait volé, puis qu'on s'est aperçu qu'on avait retrouvé beaucoup de choses qui avaient été volées dans le village chez lui. Il y a une tension qui est devenue extrême et extrêmement forte, quoi. Plus personne n'a de repère. Par exemple, il y a une tradition très ancienne qui voulait qu'un jeune qui devait passer à l'âge adulte, devenir homme, se devait de voler un zébu. Et donc, il partait et il allait. Et c'était tout à fait accepté, ça faisait partie de la tradition. Maintenant, on ne vole plus un zébu, on y va avec des kalachnikovs et on vole des troupeaux entiers. Et ce qui fait que nous, on a vu des vachers et qui, des fois, par 3 semaines à pied, portaient leurs zébus. Ils traversent la moitié du pays avec leurs troupeaux et ils sont obligés de s'encadrer d'hommes lourdement armés parce qu'on les attaque. Et il y a cette tension quand on parle avec les gens. Le vol de zébus, c'est devenu un vrai problème national, quoi. L'histoire de la colonisation, c'est encore une histoire très difficile, en plus avec les massacres de 47 qui sont encore, qui sont là, mais on commence à en parler, mais on n'en parle pas. Enfin, et puis il y a une présence française quand même très importante malgré tout. Mais je pense que c'est aussi la corruption qui s'est quasi généralisé au niveau de l'État et des ministères, quoi, qui fait que les gens n'ont plus confiance en rien et que Ravalomanana, qui est rentré au pays, qui a d'ailleurs été immédiatement arrêté, a fait un travail extraordinaire dans sa première mandature. Et la deuxième mandature, il a considéré que le pays était à lui et que l'argent du pays devait aller dans ses caisses. Et là, il y a eu des émeutes terribles. Et le pays reste sous ce traumatisme-là, parce que en 48 heures, la moitié des industriels qui étaient installés à Madagascar ont quitté le pays, quoi. Et bon, ils ont perdu énormément, mais le pays aussi a perdu. Ils ont perdu 500 000 emplois en 48 heures. Parce que il y a eu des émeutes et qui ont été organisées et qui ont fait que les gens dans leur détresse, dans leur colère, sont partis dans des extrêmes, quoi. Donc ont pillé les usines. Enfin, il y a eu des choses extrêmement fortes. Et là, tous le disent, quoi. Enfin, que ils payent ça très très cher. Quoi. Les enfants viennent vers moi. De partout, de toujours, il y a une espèce de complicité qui s'installe très très vite. Et à Madagascar, c'était encore plus fort. Il y avait, mais souvent même ça s'articulait sous forme de jeu. Il y avait tout de suite un dialogue. Ils jouaient avec moi, quoi. Et moi, je jouais avec eux. Et il y a une complicité qui s'installait. Et effectivement, ils m'ont livré dans certains regards une détresse qu'un enfant ne devrait pas porter, quoi. Et en même temps des joies, parce que on arrivait aussi à jouer ensemble, à créer une espèce de connivence, ce qui faisait que à un moment il y avait un rayon de soleil, quoi. Et l'enfance permet ça, c'est-à-dire d'accueillir le soleil même quand le ciel est très très tourmenté. Le petit rayon de soleil, on le prend parce qu'il fait du bien, quoi.
Il y a ce portrait d'une jeune fille qui regarde l'objectif. Elle est derrière une chaise, elle a sa main posée sur le rebord du dossier en bois. La photo est en noir et blanc, tout en nuances de gris, avec un fond relativement sombre. Et puis, sur un des montants de la chaise, une tête de poupée se trouve fichée à cet endroit-là. Une tête de poupée, le seul élément qui soit en couleur, et on aperçoit aussi des traces de peut-être de feutre ou de stylo ou quelque chose sur cette poupée. Et là, tu as une image qui est très très forte.
Ben, cette photo, c'est ce que j'appelle des instantanés, c'est-à-dire que c'est je suis passé devant cette maison et effectivement, dans cette obscurité qui habitait cet espace, il y avait ce petit visage là. Et cette poupée posée sur le recoin de cette chaise, c'était vraiment bouleversant. Et on s'est regardé tous les deux et j'ai pris mon appareil que j'avais dans la main et j'ai arrêté cet instant, quoi. Mais j'ai voulu... Madagascar, c'est la première fois que je travaille le noir et blanc, vraiment. Et j'ai voulu, comme dans plusieurs photos, mais celle-là notamment, la couleur, c'est aussi l'espoir. Parce que la laisser totalement dans le noir, cette poupée qui est un peu marquée par des coups de feu, ben, c'est quelque chose qu'elle a trouvé à la décharge. Enfin, bon, comme beaucoup d'enfants jouent avec ce qu'ils récupèrent de loin en loin. Et là, c'était la couleur, c'est quand même... même dans la tristesse de son regard, j'avais envie qu'il y ait quand même un horizon d'espoir. Et j'ai senti ça quand même chez beaucoup d'enfants. Ils sont en attente d'un espoir. Ils n'ont pas abandonné l'espoir. Ils sont en attente d'un espoir. Mais j'espère pour eux que ça va arriver assez vite, quoi.
On voit d'un côté de très jeunes enfants, tout sourire, amusé. Et puis sur le deuxième côté, hein, c'est comme s'il y avait une sorte de pyramide faite d'enfants.
6-7.
Et sur la gauche, on voit trois enfants légèrement plus âgés. Mmh. Et l'un qui livre des regards d'une puissance assez incroyable.
Ah oui, moi j'étais déstabilisé. Hein. J'adore cette photo, mais je trouve que ses regards, autant comme tu dis, il y a une espèce d'angélisme à droite et à gauche, il y a une dureté, il y a une maturité dans ses regards d'enfants qui ont 8-10 ans, quoi. Mais il me regardait avec une force, une puissance, et c'était extrêmement bouleversant, quoi. C'était un instantané. Je suis resté avec eux, mais j'ai pris que cette photo parce que c'était, j'ai eu ce moment, et puis après, bon, on a joué, mais c'était.
Il y a ce regard bien particulier de l'enfant qui est un peu sur la pointe de ce triangle là, un regard à la fois pétrifié et pétrifiant.
Ouais, il est quasi pétrifié. Ouais, non, mais il y a dans cette photo une série de regards, il y a une richesse et une diversité de regards. On couvre pas le panel, mais quand même, c'est étonnant, quoi. Et Madagascar, si on ose prendre le temps, si on ose d'aller à la rencontre, il offre ça tous les jours, quoi.
Na de mantra zani fiai na na we. Yeah. Yes. Boom. Funni bola chara no de fa tan. Izi e fa tan tera kawana we. Funni bola chara no de fa tan. Izi e fa. Tantera kawana Funi voni kiasia no dei tani Izi efa tungawa no melu Funi voni kiasia no dei tani Izi efa tungawa no melu Funi mbula tiara no de fantani Izi efa Tantera kawana Funi vau Funi voni kiasia no dei tani Izi efa tungawa no melu Na de manta zani fiai nanau Ni tumpumbula tianau Na paradisa za funi wanau Misteri mia fina izan Na de manta zani fiai nanau Ni tumpumbula tianau Na paradisa za funi wanau Misteri mia fina izan Timiuva iza tamizai Atizai Chimamela na ureraka Ni devule vau tiratisai Chimalala chamunwa nao Timiuva iza tamizai Atizai Chimamela na ureraka Ni devule vau tiratisai Timalala chamunwa nao Timalala chamunwa nao Timalala chamunwa nao
Ye timalali
Timalala chamunwa nao
Ye timalali
Timalala chamunwa nao Timalala Chamunana, Chimalala, Chamunana, Chimalala, Chamunana, Chimalala, Chamunana, Chimalala, Chamunana, Chimalala, Chamunana.
Non, et puis ils sont pas complètement résignés. On sent qu'ils ont, ils ont envie, quoi. Il y a une vie, il y a une énergie, il y a une souffrance morale et matérielle très forte, mais il y a une vraie dynamique de vie, quoi. D'ailleurs, Lille, il se trouve que la saison des pluies est propice à ça, mais quand on est parti d'Antananarivo, on a emprunté la route des hauts plateaux, c'était absolument sublime. Les rizières étaient fluorescentes, les cultures partout étaient des verts. Tu te dis, mais attends, les types, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont peint le riz. Enfin, tout était riche d'azote, de lumière, de vie, quoi. Et on sent que ces gens-là, ils ont qu'une envie, c'est de mordre, quoi, de prendre la vie, de vivre avec elle, quoi. C'est pas un peuple résigné, c'est un peuple triste qui et l'horizon de l'espoir, il est repoussé loin, mais c'est pas un peuple résigné, c'est un peuple plein d'espoir et c'est un peuple plein de richesses.
Tu malan nan toi.
Je crois que ce travail sur Madagascar a bouleversé un nombre de gens assez incroyable. Moi, j'ai reçu plus de 120 mails, des gens me livrant leur intimité la plus profonde, tellement ces images leur avaient révélé quelque chose. Enfin, c'était extrêmement fort. Et des gens qui n'osaient pas m'écrire, mais qui me croisant à Brive, ou au 4 août, ou à Messac, ou ailleurs, et qui venaient vers moi me parler de ce qu'ils avaient ressenti, de ce qui les avait bouleversés dans ces photos. C'était absolument incroyable, quoi. Un monsieur étonnant et charmant et qui donc va organiser aussi une expo en 2016. C'est un monsieur qui a fait toutes les grandes écoles de la photographie, qui était un grand photographe et qui a été l'assistant et le collaborateur d'André Malraux. Et qui, quand il a découvert ces photos, m'a écrit tout de suite un mail me demandant à me rencontrer. Et il me dit, je veux qu'on montre ce travail. Donc moi, j'ai été quand même extrêmement touché. En plus, un monsieur adorable qui a quand même déjà un certain âge, mais qui ne manque pas d'énergie, puisque pour ses 70 ans, il est parti, enfin il a 79 ans maintenant, mais pour ses 60, et il marche toujours, de très longues marches, mais pour ses 70 ans, il s'est offert la traversée du Zanskar en Inde, 3 semaines de marche avec des cols entre 4008 et 5006. Pour ses 70 ans. Bon, pour vous donner un peu l'envergure du personnage, donc quand des gens comme ça viennent vous contacter et puis vous parlent de l'émotion, de ce qu'ils ont ressenti, c'est bon. Tous les témoignages que j'ai reçus sont tous, pour moi, je fais pas de différence, mais j'étais quand même très touché, comme un conservateur de musée qui préparait une exposition sur Sebastião Salgado, dont Wim Wenders vient de présenter un film. Bon, Sebastião Salgado, dans le monde de la photo et du documentaire photo, c'est pas la référence, mais c'est une des grandes références. Et ce monsieur, donc, préparant une exposition sur Sebastião Salgado, me contacte aussi. Il me dit, donnez-moi votre téléphone, il faut qu'on parle. Il croyait que c'était les dernières photos de Salgado. Je lui ai dit, bon, je suis très touché, mais non, ce ne sont que mes humbles photos. Et voilà, il m'a proposé aussi une exposition. Je ne sais pas si elle va se faire, mais il était profondément également touché. Enfin, beaucoup de rencontres comme ça. Et il se trouve que Colette Froidefond, qui s'occupe de la programmation du théâtre de Brive, quand elle a vu les photos, m'a immédiatement écrit et m'a dit, Daniel, mais il faut qu'on montre ça, c'est bouleversant, c'est magnifique. Enfin bon, donc j'ai dit, ben oui, Colette, si tu veux. Et puis il se trouve que cette année, le théâtre de Brive propose une série de rencontres avec des orchestres, des gens du théâtre du monde entier dans le cadre de Spectacles sans frontières. Et le premier spectacle, ils invitent l'Orchestre National Malgache. Elle a dit, il faut que tout ça se rencontre, quoi. Et donc, j'ai dit, ben oui. Et le centre culturel, pareil, la responsable du centre culturel, qui a découvert aussi les photos, m'a immédiatement écrit. Elle m'a dit, nous, on s'occupe du mois du documentaire au mois de novembre. Et au lieu d'inviter un cinéaste ou quelqu'un, on voudrait que ce soit vous l'invité, et donc qu'on présente ce travail en parallèle des animations. Donc 2 événements vont se conjuguer, puisque l'ouverture du mois du documentaire va se faire le 4 novembre au théâtre de Brive. Et on accrochera pour ce soir-là provisoirement une série de grands tirages, qu'on décrochera parce que Spectacle sans frontières commence le 16 novembre, je crois. Donc là, elles seront réaccrochées jusqu'à la mi-décembre, et au centre culturel du 4 novembre jusqu'au 29 novembre, je crois, on pourra voir une 20aine de clichés, moyen format, tout à fait respectable. Je suis ravi de la qualité du tirage qui a été fait par l'équipe de Nantes, vraiment. Je salue leur travail. Alors, c'est lézardvert.com. Alors, lézard, ça s'écrit L-E-Z-A-R-T-S, vert, V-E-R-T-S.com. Je voudrais juste rappeler que l'espace Orlando me propose une exposition l'été prochain, beaucoup plus grande, avec un plus large regard sur mon travail. Et je pense que ça devrait pouvoir intéresser les gens qui habitent plus près de Bretonneux-Saint-Céré. Et j'espère pouvoir les rencontrer à ce moment-là.
Merci.
Merci à toi. Vraiment, c'était un moment très agréable.
Es-tu prêt à regarder ? Regarder quoi ? Les regards ? Mais qu'y a-t-il à regarder dans les regards ? Ce qu'ils ont vu.